Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, Traité Psachim, page 5, Daf He. Bonne écoute et bon limoud.
Deha itkish ashbatat seor l'achilat chametz, car a été juxtaposée l'obligation d'éliminer le levain à l'interdit de manger du pain levé. V'achilat chametz l'achilat matzah, et l'interdit de manger du pain levé a été juxtaposé à l'obligation de manger la matzah. Et donc, nous apprenons de là que puisque l'obligation de manger de la matzah, c'est la nuit du 15 Nissan, donc l'interdit de manger du chametz, c'est aussi la nuit du 15 Nissan. Et puisque l'interdit de manger du chametz, c'est la nuit du 15 Nissan, donc l'obligation d'éliminer le levain, c'est aussi la nuit du 15 Nissan. Et donc, nous n'avons pas besoin de ce second verset pour apprendre qu'il est interdit de posséder du chametz et qu'il faut l'éliminer la nuit du 15 Nissan. Donc, à nouveau, ce second verset est en trop. Et puisqu'il est en trop, de là, nous apprenons qu'il est interdit de posséder du chametz déjà, en fait, depuis la veille de Pessah, depuis le 14 Nissan. Et la Gemara explique comment ces interdits et ces obligations ont été juxtaposés. Ashbatat seor le'achilat chametz. L'obligation d'éliminer le levain à l'interdit de manger du pain levé ont été juxtaposés, dit-il, car il écrit Shevat yamim seor lo yimatze bevatechem. Durant 7 jours, on ne trouvera pas de levain dans vos maisons. Ki kol ochel machmetzet venicheta, car quiconque mange du pain levé, de la pâte levée, sera retranché. Donc nous voyons que ces deux obligations ont été juxtaposées l'une à l'autre. Ve'achilat chametz l'achilat matzah, et l'interdit de manger du pain levé a été juxtaposé à l'obligation de manger la matzah, dit-il, car il écrit kol machmetzet lo tochelu, chaque pâte levée vous ne mangerez pas. Bechol moshvotechem tochlu matzot, dans toutes vos demeures vous mangerez des matzot. Donc nous voyons que ces deux obligations ont aussi été juxtaposées l'une à l'autre. Effectif bébé matza, et il écrit à propos de l'obligation de manger la matza, ba'erev tochlu matzot, au soir vous mangerez les matzot. Donc nous voyons que de même que l'obligation de manger les matzot est au soir, de même l'interdit de chametz est depuis le soir, et de même l'obligation de l'éliminer est depuis le soir. Et donc en fait, ce second verset que nous avons ramené plus haut vient en fait nous apprendre qu'il est interdit de posséder du chametz et d'en manger, d'en profiter depuis la veille de Pessah. La Gemara demande, Veima, peut-être que ça vient nous dire, les rabotes, les yuddalet, les bio, qu'on doit depuis déjà la nuit du 14, c'est-à-dire depuis la veille du 14, éliminer le chametz. Alors la Gemara répond, non, ça c'est pas possible de penser une chose pareille, pourquoi? Bayom ktiv, il est écrit qu'on doit l'éliminer en journée. Et donc ça ne peut être que, il est interdit de manger du chametz déjà depuis un jour, 24 heures, avant le début de Pessah, c'est-à-dire depuis la veille du 14. Donc on me demande, Veima Misafra, alors peut-être qu'en fait l'interdit est de manger du chametz depuis le 14 au matin. Comment savons-nous que c'est que le 14 à la 6e heure qu'il est interdit de manger du chametz? La Gemara répond, Ach Chilek. Le mot Ach, qui signifie, comme nous l'avons traduit plus haut, surtout, mais qui peut signifier aussi seulement, alors ce mot Ach, Rashi nous dit qu'il a quelque chose de spécial. C'est-à-dire que lorsqu'on l'utilise dans un verset, alors ça vient départager le sujet sur lequel on parle en deux. Et donc, puisque ici nous parlons du 14 Nissan, Ach Bayom Arishon, seulement le premier jour, et le premier jour ici nous parlons en fait du 14 Nissan, alors ce jour-là, on le divise en deux. Et donc de là, nous apprenons que la première partie du 14 Nissan jusqu'à la 6e heure, il est permis de manger du chametz, mais à partir de la fin de la 6e heure, il est interdit d'en manger. Dever Rabbi Ishmael Tana. Au Beit HaMidrash, à la maison d'études de Rabbi Ishmael, ils ont enseigné une autre façon d'apprendre que ce second verset nous parle du 14. Matinu Yudalet Shenikra Rishon. Car on a trouvé un autre endroit où la date du 14 est appelée Rishon, le premier. Shenema, comme il est dit, Barishon Barba Asariyom Lachodesh. Au premier, le 14e jour du mois. Donc nous voyons que le 14e jour du mois est appelé le premier. Et donc, lorsqu'il écrit dans le verset « Ach bayom arishon tashvitu seor mibatechem » surtout le premier jour, vous éliminerez le levain de vos maisons. En fait, ici, le premier jour, ce n'est pas le premier jour de la fête, mais c'est le premier jour qu'on parle dans toute la Torah, c'est-à-dire le 14 du mois, c'est-à-dire le 14 Nissan. Et au 14 Nissan, on devra éliminer le chametz. Rav Nachman Bar Yitzhak Amar, Rav Nachman Bar Yitzhak nous dit, et une autre façon d'étudier, une autre façon d'apprendre, qu'en fait, ce second verset qui nous dit, Ach bayom arishon tashbitu seor mi batechem, seulement le premier jour, vous éliminerez le levain de vos maisons. Alors nous apprenons d'une autre façon qu'en fait ce verset nous parle du 14 Nissan. Il nous dit pourquoi? Rishon de meikara mashma. Le Rishon, le premier, ça sous-entend en fait pas le premier, mais le précédent, celui qui précède les autres jours. Et donc en fait le jour qui précède les 7 jours de la fête, c'est le 14 Nissan. Et ce jour-là, il est interdit de manger du chametz. De Amakra, car le verset a dit, à propos de Yov, Harishon Adam Tivaled, même si tu nais avant tous les autres hommes. Et donc nous voyons ici que le mot Rishon est utilisé pour dire le premier de tous les autres hommes, c'est-à-dire avant tous les autres hommes, celui précédent à tous les autres hommes. Donc en fait ici, lorsque nous parlons ici de Bayom Harishon, c'est le jour précédent. Ragman nous demande, alors et la mat, alors à partir de maintenant, si nous utilisons cette explication, lorsqu'il écrit à propos de Sukkot, Ulkartem Lachem Bayom Harishon, et vous prendrez pour vous le premier jour, c'est le verset qui nous dit que nous avons une obligation de prendre le loulav, etc. Alors, il est dit, vous le prendrez le premier jour. Et il utilise le terme Harishon. Alors, Hanam et Rishon de Meikara Mashma. Est-ce que ici, ça sous-entend aussi qu'on faut comprendre le loulav le jour qui précède les 7 jours de la fête de Sukkot? Alors, Ragman nous répond, non. Shahane Atam, là-bas, c'est différent. Dirtiv, car il écrit, Usmartem, l'ifne Hashem Elokerem, et vous vous réjouirez devant Hashem votre Dieu, Shivat Yamim, 7 jours. Et de là, nous apprenons, Mashvi Shvi Lachak, de même que le 7e jour que nous parlons ici, c'est le 7e jour de la fête, Avrishon Rishon Lachak, de même le premier jour, c'est le premier jour de la fête. Et donc, lorsque nous disons, Ukartem Lachem Bayom Rishon, vous prendrez pour vous le premier jour, alors il y a une étude spéciale qui nous dit que le premier jour, c'est le premier jour de la fête, mais pas le jour qui précède la fête. Or, la Gemara demande, si c'est ainsi, Achenami, ici aussi, Ktiv, il écrit à propos de Pessah, Ach Bayom Rishon Tashbitu Tashbitu, surtout le premier jour, vous éliminerez le chametz, le levain, c'est-à-dire le verset que nous avons ramené plus haut. Et il est dit juste après, Shivat yamim matzot ochlou. Durant 7 jours, vous mangerez des matzot. Et donc nous voyons ici, alors on pourrait dire aussi que demain que les 7 jours, c'est les 7 jours de la fête, demain le premier jour, c'est le premier jour de la fête. Et donc nous ne pouvons apprendre qu'il y a une obligation d'éliminer le chametz la veille de Pessah. Alors, il me répond, non, ça, on ne peut pas étudier un cas pareil ici, pareillement ici. Pourquoi? Imken irtov kra rishon. Que le verset écrive, ach beyom rishon. Surtout le premier jour. Pourquoi avons-nous besoin de dire, ha rishon? Spécifier que le premier jour qu'on parle, on dit ici, spécialement, on rajoute le hé, le premier jour, souligner une seconde fois le premier jour. La mali, pourquoi avons-nous besoin de souligner ce hé? Or, Shomina, ça vient nous sous-entendre, l'Erda Amran, comme nous avons enseigné plus haut, que ici nous parlons de Harishon, du premier du mot Rishon que l'on parle dans toute la Torah, c'est-à-dire le jour qui précède la fête. Ragma demande Yachi si c'est ainsi, Hatam là-bas aussi à propos de Sukkot, Nami aussi Harishon, il est écrit au Kartem Lachem Bayom Harishon, et vous prendrez pour vous le premier jour. La Mali, pourquoi avons-nous besoin de dire encore une fois Harishon avec un hé? Et donc ça c'est une première question que nous avons sur Rav Nachman Bar Yitzhak. Pourquoi avons-nous besoin d'écrire Harishon avec un hé? Vetou. Et de plus, une autre question on pose sur Rav Nachman Bar Yitzhak. Atam, dirtiv, là-bas où il est écrit, à propos de Sukkot, ou bayom Harishon Shabbaton, ou bayom Hashemini Shabbaton. Le premier jour sera un jour de fête, et le 8e jour sera un jour de fête. Donc nous voyons en fait que ici, nous utilisons aussi le terme Harishon. Alors, Imar Rishon de Meikara Mashma, allons-nous dire aussi qu'en fait le mot Rishon, ça sous-entend le jour qui précède les jours de Sukkot, alors lui ce sera un jour de fête? Comment est-ce possible de penser une chose pareille? Alors, Gemara répond non. Shane Atam là-bas c'est différent, Damaka, car le verset a dit, Ubayom Hashmini Shabbaton, et le 8e jour sera un jour de fête. Alors, et donc j'apprends de là, Uma Hashmini Shemini Lachad, de même que le 8e jour, c'est le 8e jour de la fête. Avrishon, Rishon de Chag. De même ici, lorsque nous utilisons le terme Rishon, ça signifie le Rishon, le premier jour de la fête, et pas le jour qui précède la fête. Alors, Agma demande, si c'est ainsi, Harishon, la Mali. Pourquoi avons-nous eu besoin d'utiliser le terme Harishon, le premier? Comme nous l'avons enseigné plus haut, lorsque nous utilisons ce terme Harishon, apparemment, ça signifie le jour qui précède la fête. Alors, Agma répond, non. Ici, on avait besoin de souligner le hé, le premier jour pour nous dire les maoté cholosh el moed, pour exclure les jours de demi-fête. C'est-à-dire que le premier jour est jour de fête, le huitième jour est jour de fête, mais entre le premier jour et le huitième jour, ce n'est que demi-fête. Et non pas jour de fête. Alors, Agma demande, comment aurons-nous pu... Et c'est pour ça, en fait, que on a utilisé le « hé ». Agma demande, comment aurions-nous pu penser que les jours entre le premier et le huitième sont eux aussi jours de fête? On apprend que les jours entre le premier et le huitième sont demi-fêtes, car c'est que le premier et le huitième qui sont jours de fête. Et donc, automatiquement, ce qui est entre le premier et le huitième n'est pas jour de fête. Agma répond, non. Il sait, malgré cela, nous avons besoin. Pourquoi? J'aurais pu penser dire au il de Katavra Khamana ou Bayom Hashmini, puisque la Torah a écrit et le huitième jour avec un Vav, et elle n'a pas écrit le huitième jour, mais et huitième jour. Donc Vav Mosif Alinyan Rishon, le Vav ici vient et lie le huitième jour au premier jour, et donc j'aurais pu penser qu'en fait le premier et le huitième sont liés ensemble, et donc tous les jours qu'il y a entre le premier et le huitième sont aussi jours de fête. Alors c'est pour cela que la Torah nous a écrit un « hé » pour nous dire que le premier et le huitième sont jours de fête, mais pas les jours qui sont entre le premier et le huitième qui, eux, sont jours de demi-fête. Et donc, en fait, ici, nous avons une étude spéciale qui nous dit que le mot « rishon » ne signifie pas le jour qui précède la fête, mais ça signifie le premier jour de la fête. Alors, Agmara pose une question sur cette étude-là. Alors, c'est ce que ça vient nous apprendre. L'Agma demande, velo lichtov rachamana, lova velo he, que la Torah n'écrit ni le vav, c'est-à-dire qu'elle ne lit pas le huitième jour au premier jour, et donc je n'aurais pas pu penser que les jours qui sont entre le premier et le huitième sont aussi jours de fête, et qu'elle n'écrit pas de he au premier jour pour nous diminuer les jours qui sont entre le premier et le huitième et nous dire qu'ils sont jours de demi-fête. C'est-à-dire que la Torah ne nous laisse pas penser qu'entre le premier et le huitième, ce soit jour de fête, pour nous l'exclure, qu'elle nous dit directement le premier et le huitième, et nous on comprend tout seul, le premier et le huitième, oui, et ce qu'il y a entre les deux, non. Et donc, nous avons donc une seconde question. Pourquoi avons-nous besoin d'écrire ici à nouveau, Harishon, le premier? Et l'Agma demande Veto, et de plus, une troisième question. Kirtiv, car il écrit, à propos de Pessah, Bayom Harishon Mikra Kodesh, et le premier jour sera saint. Yélachem, ce sera saint pour vous. Rishon, demi karamashma. Alors allons-nous dire aussi que Rishon, le premier jour, ça signifie le jour qui précède les sept jours de Pessah. Donc en fait, nous avons trois questions. La première fois, nous parlons du Lulav de Sukkot, où il est dit, Ulkartem lachem bayom arishon, et vous prendrez pour vous le premier jour. Et apparemment, ici, ça signifie le premier jour de la fête. Deuxièmement, il est écrit, Bayom Arishon Shabbaton ou Bayom Shmini Shabbaton, à propos de Sukkot. Et le premier jour de la fête, le huitième jour de la fête. Et donc nous parlons du premier jour de la fête et pas le jour qui précède. Et troisièmement, il écrit à propos de Pessah, Bayom Arishon Mikra Kodesh, le premier jour sera un jour saint pour vous. Et donc nous parlons du premier jour de la fête. Et donc nous voyons trois fois où nous avons utilisé le mot Rishon. Et le Rishon, c'est le premier jour et pas le jour qui précède. Alors il faut dire que c'est trois fois où nous avons utilisé le mot Rishon et que ça signifie le premier et non pas le précédent. Nous en avons besoin pour ce que nous avons enseigné à la maison d'études de Rabbi Shmuel. Car nous avons enseigné à la maison d'études de Rabbi Shmuel. Et c'est pour cela que nous utilisons ces termes spécialement. Ces termes Rishon spécialement. Bisrar Shlosha Rishon, par le mérite des trois Rishon, Zachrou les Shlosha Rishon. Ils ont reçu les trois Rishon. C'est-à-dire, par le mérite des trois Rishon que nous avons cités plus haut, ou sur lesquels nous avons une question. C'est-à-dire, le premier jour, le fait de prendre le Lulav le premier jour. Et le fait de premier jour de Sukkot, que c'est un jour saint. Et le fait que le premier jour de Pessah, c'est un jour fin. Alors, par le mérite de ces mitzvot-là, les Béné Israël ont eu le Sroot, le mérite, de recevoir trois autres Rishon. Et c'est quoi ces trois autres Rishon? Alors, c'est trois sujets sur lesquels nous avons utilisé le terme Rishon. Et c'est quoi ces trois sujets? L'Agma nous dit immédiatement, l'Achit Zaro Shel Esav, détruire la descendance de Esav, les Binyan Bet Amigdash, la construction du temple, ou les Shmo Shel Mashiach, et du nom du Mashiach. Et l'Agma explique immédiatement pourquoi. L'Achit Zaro Shel Esav, afin de détruire le mérite de détruire la descendance d'Esav, dit-il, car il écrit à propos de Esav, va yetzer Rishon Admoni, kuloka deret sear. Le premier qui sortit était roux, et tout son corps pareil à une peluche, à une pelisse. Et donc, en fait, ici, nous parlons de Esav, et lui, il est appelé Rishon, le premier qui est sorti. La deuxième chose que les bénis Israël ont eu le mérite grâce au Rishon, c'était ou le binyan bet amigdash, à la construction du temple. Dire-t-il, car il est écrit à propos de la construction du temple, qui sait kavod marom merishon, mais comme migdashenu. C'est un trône glorieux, sublime de toute éternité, que le lieu de notre sanctuaire. Et donc nous voyons ici que nous utilisons aussi le terme de Rishon à propos du Bet HaMikdash, du temple. Et la troisième chose que les bénis Israël ont eu le mérite grâce au Rishon, ou l'Ishmosh el Mashiach, au nom du Mashiach, dit-il, car il écrit à propos de Mashiach, Rishon le Tzion, hineinam, moi le premier, j'ai dit à Tzion, les voici, en parlant bien sûr des sauveurs, c'est-à-dire du Mashiach. Et donc nous voyons qu'à propos de Mashiach, nous utilisons aussi ce terme, Rishon le premier. Maintenant nous revenons sur le sujet que nous avons vu plus haut. D'où apprenons-nous que le verset qui nous dit « Ach bayom rishon tashbitu sear mibatechem » surtout le premier jour, vous éliminerez le levain de vos maisons, nous parle du 14 Nissan. Et donc nous savons que on n'a pas le droit de posséder le Hametz depuis le 14 Nissan, depuis la veille de Pessah déjà. Alors, Rava nous dit, nous l'apprenons dans notre verset. Il écrit « Lo tishrat al Hametz dam zifri » Tu ne sacrifieras pas en présence du pain levé le sang de mon offrande. Et de là nous apprenons Lo tishrat à Pessah, tu ne sacrifieras pas le korban Pessah, le sacrifice de Pessah, vadain chametz kayam, et tu as encore du chametz, du pain levé, dans ta possession. Or, puisque l'obligation de sacrifier, d'amener le sacrifice de Pessah était la 14 après-midi, de là nous apprenons qu'il est interdit de posséder du chametz depuis le 14 après-midi déjà. Donc ma demande, veima, peut-être qu'il faut dire une autre explication. Kol chad vechad kishachit. Chacun, lorsqu'il amène son sacrifice et qu'il offre, alors lui ne doit pas avoir de chametz en sa possession. Et donc chacun suivant l'heure à laquelle il amène son sacrifice. La Gemara répond non. Zman shrita amarachmana. La Torah parlait du moment du sacrifice. C'est-à-dire à partir du moment où l'on peut sacrifier le sacrifice de Pessah, c'est-à-dire le 14 à partir de la 6e heure. Alors à partir de ce moment-là, on n'a plus le droit d'avoir du chametz en sa possession. La Gemara nous dit, nous avons aussi comme ça dans une brita. Il est dit dans le verset, Ach bayom arishon tashbitu seor mibatechem, surtout le premier jour, vous éliminerez le levain de vos maisons. Alors est-ce que Meherev Yom Tov, Oeno Elabe Yom Tov, est-ce que nous parlons ici la veille du Yom Tov, la veille du jour de fête, c'est-à-dire la veille du 15 et donc le 14, ou alors ça nous parle seulement le jour du 15, le jour de la fête, c'est-à-dire le 15 lui-même, Atzmo lui-même. La Gemara nous dit, Talmud Lomar, le verset nous dit, un autre verset nous dit, Lo tishrat al chametz dam zifri. Tu ne sacrifieras pas en possession de chametz, de pain levé, le sang de mon offrande. Donc nous voyons que nous apprenons de là, Lo tishrat ta pesach. Tu n'amèneras pas le sacrifice de pesach. Va d'ain chametz kayam. Et tu as encore du chametz, du pain levé, en ta possession. D'ivré Rabbi Shmuel, ce sont là les paroles de Rabbi Shmuel. Rabbi Akiva nous dit, Enotzech. Nous n'avons pas besoin de cette étude-là, car nous l'apprenons d'une autre façon. Areo Omer, car il est déjà écrit, Ach bayom marishon tashbitu sear mibatechem. Surtout le premier jour, vous éliminerez le levain de vos maisons. Victive, il écrit dans un autre verset, Kol melacha lo ta'asu. Tous travaux, vous ne ferez pas. Umatinu lavara shiav melacha. Or, nous avons trouvé que le fait de brûler est considéré comme étant un travail interdit les jours de fête. Le fait d'allumer du feu. Et donc, puisqu'il y a une règle qui nous dit que la façon de détruire le chametz, le levain, c'est en le brûlant, alors il n'est pas possible que la Torah nous a dit que l'obligation de brûler le chametz, c'est le premier jour de la fête. Car le premier jour de la fête, on n'a pas le droit d'allumer du feu. Donc en fait, de là nous apprenons que l'obligation de brûler le chametz et de le détruire et de ne plus en avoir à sa possession, c'est déjà la veille du jour de fête, c'est-à-dire le 14 Nissan. Rabbi Yossi nous dit, Enotzarich, nous n'avons pas besoin de cette étude-là. Aré Omer, car il est déjà dit, Ach bayom arishon tashbitu sear mibatechem, surtout le premier jour, vous éliminerez le levain de vos maisons. Et donc nous avons un doute, Merev Yom Tov, Oena Elab Yom Tov, est-ce que nous parlons de la veille de Yom Tov, la veille du jour de fête, c'est-à-dire le 14, ou alors le jour de fête lui-même, c'est-à-dire le 15, Talmud Lomar, le verset nous a dit, Ach Chilek, avec le mot Ar, en nous disant le mot Ar seulement, alors comme nous l'avons vu plus haut, ça départage la journée en deux. Vebe Yom Tov Atzmo, et si nous parlons du jour de fête lui-même, c'est-à-dire du jour du 15, Micharé, pouvons-nous départager la journée en deux et dire que le début de la journée, il est permis de manger du levain? Pourtant, l'obligation de détruire le chametz a été juxtaposée à l'interdit de manger du pain levé, et l'interdit de manger du pain levé a été juxtaposé à l'obligation de manger la matza. Et de même que nous avons l'obligation de manger la matza déjà depuis la veille du 15, et donc c'est sûr que, donc, grâce aux juxtapositions que nous avons dit, c'est sûr que l'on doit détruire le chametz déjà depuis la veille du 15. Donc c'est sûr que le 15 au matin, on n'a pas le droit de posséder encore du chametz, et ni d'en manger, du pain levé. Et donc, nous ne pouvons dire que si la Torah a départagé la journée en deux, nous parlons du 15. Et donc de là nous apprenons, et nous sommes obligés de dire que puisque la Torah a départagé la journée en deux, alors nous parlons du 14, de la veille du jour de Pessah, et donc de là nous apprenons qu'on n'a pas le droit de posséder du chametz déjà depuis la veille de Pessah. Amar Rava, Rava nous dit...
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous passons à la page suivante. Daf, Hey Amud Bet, Shma Mina Mide Rabbi Akiva, nous pouvons apprendre des paroles de Rabbi Akiva, Klart. Trois choses. Car Rabbi Akiva a dit que c'est obligé que lorsqu'il est dit qu'il faut détruire le chametz le premier jour, nous parlons de la veille de Pessah, car nous avons l'obligation de détruire le chametz en le brûlant, et on n'a pas le droit de brûler un jour de fête. Donc en fait, c'est sûr que la Torah nous parle de la veille du jour de fête. Alors la Gemara nous dit, nous apprenons de ces paroles de Rabbi Akiva trois choses. Premièrement, Shemamina, nous apprenons en bio chametz et la srefa, que nous n'accomplissons l'obligation de détruire le chametz seulement en le brûlant. Veshmamina avara lechalek yatzat, que l'interdit d'allumer du feu est venu pour diviser. Et nous expliquons. Il est écrit dans la Torah qu'il est interdit de faire des travaux pendant les jours de fête. Or, allumer du feu, tout le monde sait que c'est un des travaux qui est interdit. Par contre, la Torah vient et nous répète. Vous n'allumerez pas du feu dans toutes vos demeures. Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de nous répéter une seconde fois qu'il est interdit d'allumer du feu? C'est déjà inclus dans l'interdit de faire des travaux. Alors sur ce sujet-là, il y a une discussion. Pour quelle raison la Torah est venue et a répété cet interdit? Il y a un premier Tana qui pense que la Torah est venue nous dire cette chose-là pour nous dire qu'en fait, l'interdit d'allumer du feu n'est pas un Av Melacha, un des 39 travaux interdits, mais c'est juste, et donc celui qui allume du feu ne fait qu'en fait que transgresser un Lav, un interdit de la Torah. Mais il ne fait pas partie des 39 travaux interdits les jours de fête et les jours de Shabbat. Par contre, Rabbi Nathan pense que non. C'est en fait la raison pour laquelle la Torah a fait sortir l'interdit d'allumer du feu des autres interdits, c'est pour nous apprendre quelque chose. J'aurais pu penser que quelqu'un qui transgresse les 39 interdits un jour de Shabbat ou un jour de fête sans faire exprès ne sera passible que d'un seul sacrifice expiatoire, car en fait, tous ces interdits sont inclus dans un seul et même interdit, tous ces 39 travaux. Vous ne ferez pas des travaux pendant les jours de fête et pendant le Shabbat. Donc en fait, puisque tous les travaux sont inclus dans un seul et même interdit, j'aurais pu penser que celui qui a transgressé tous les travaux amènera un seul sacrifice expiatoire. Alors la Torah est venue nous dire et nous a fait sortir cet interdit d'allumer du feu pour nous dire que de même que lui a été mis à part, de même chacun des 39 travaux qui sont interdits et sont un interdit à part entière. Et donc celui qui transgresse les 39, celui qui fait les 39 travaux le jour du Shabbat sans faire exprès, sera passible de 39 sacrifices expiatoires, car c'est considéré qu'il a transgressé 39 interdits séparément. Et donc, nous apprenons des paroles de Rabbi Akiva, qui considère l'interdit d'allumer du feu comme étant un Av Melacha, un des 39 travaux. De là, nous apprenons que lui, il pense que l'interdit d'allumer du feu est un des 39 travaux, et non pas donc juste un interdit de la Torah. Et donc de là, nous apprenons que lui, il pense que la raison pour laquelle la Torah l'a fait sortir de tous les autres interdits, c'est pour nous diviser les 39 travaux en chacun un travail à part. Et donc celui qui transgresse les 39 travaux un jour de Shabbat sans faire exprès sera passible de 39 sacrifices expiatoires. Veshma mina, et nous apprenons des paroles de Rabbi Akiva une troisième chose. Le amrinan oil veotra avara le tzorer, outra namish le tzorer. Nous ne disons pas que puisque il a été permis d'allumer du feu en cas de besoin pendant le jour de Yom Tov, c'est-à-dire que si on a besoin de faire à manger pour, ou de préparer à manger, alors on a le droit d'allumer du feu. Alors nous ne disons pas que puisqu'il était permis d'allumer du feu pour un besoin spécial, alors même pour quelque chose qui n'est pas un besoin de préparer à manger, il est permis d'allumer du feu. Non, comme nous voyons des paroles de Rabbi Akiva qui nous dit que pour brûler du hametz, on n'a pas le droit d'allumer du feu. Tanou Rabbanan, nos sages nous ont enseigné. Shivat yamim seor lo yimatse bevatechem. Il est dit dans un verset, durant 7 jours, on ne trouvera pas de levain dans vos maisons. Ma Talmud Lomar, pour quelle raison le verset dit une telle chose? Va'lo kvar ne'emar, pourtant il est déjà dit dans un autre verset, lo yira'e lecha seor, velo yira'e lecha chametz, bechol gevulecha. On ne te verra pas ni de levain, et on ne verra pas chez toi de chametz, de pain levé, bechol gevulecha, dans toutes tes frontières, c'est-à-dire dans tous tes domaines. Alors pourquoi la Torah a-t-elle besoin de dire à nouveau, durant 7 jours, on ne trouvera pas dans vos maisons du levain? Alors on nous dit, les fiches, ne'emar lo yira'e lecha, on ne verra pas à toi, puisqu'il est dit à toi, c'est hors du levain qu'on n'a pas le droit de voir. Alors j'apprends de là, le tien tu n'as pas le droit de voir, mais tu as le droit de voir celui des autres, ou le chametz qui appartient à Dieu, par exemple du chametz qui a été sanctifié. Alors ça, il n'y a pas d'interdit de l'avoir chez soi. Alors j'aurais pu penser que puisqu'il est ainsi, yachol yatmin veikapel bigdonot, min anochi, j'aurais pu penser qu'on a le droit à ce moment-là de cacher le chametz qui est en sa possession, le pain levé qui est en sa possession, ou recevoir du chametz à garder d'un non-juif, c'est-à-dire que le non-juif nous donne du chametz pour le garder. Talmud Lomar, le verset nous dit, lo imatse, on ne trouvera pas. Et donc de là, nous apprenons que même le cacher, même si on ne le voit pas, et le fait qu'il se trouve dans la maison, c'est interdit. Et de même, garder du chametz d'un non-juif, étant donné qu'il est dit, lo imatse, on ne trouvera pas, même si c'est pas le nôtre, on n'a pas le droit de le garder. Et la Gemara continue, nous dit, En lila benochi shelo kibashto, et je ne connais cet interdit que, seulement à propos d'un non-juif, qu'on n'a pas conquis ces terres. Ve'en sharu imcha bachater, et ne se trouve pas avec toi dans ta cour. Aval nochi she kibashto ve sharu imcha bachater, mais un non-juif que l'on a conquis, et qui se trouve avec nous, donc, dans nos cours, et qui donc vit avec nous. Alors, minayin, d'où je sais que même d'un pareil non-juif, on n'a pas le droit de recevoir des objets à garder. Talmud Lomar, le verset nous dit, lo imatse bevatechem, on ne trouvera pas dans vos maisons. C'est-à-dire, de toute façon, même si c'est un non-juif qu'on a conquis, on n'a pas le droit de garder son pain levé. Et nous allons expliquer un peu plus bas dans la Gemara, quelle est la signification de cette question. Maintenant, la Gemara continue et nous dit, je n'apprends de ces versets-là que l'interdit de garder du chametz à la maison, comme il est dit. On ne trouvera pas dans vos maisons. Alors d'où j'apprends que beborot, besichin ou bemarot, dans vos puits, et sichin c'est une autre sorte de puits, ou marot, les grottes qui nous appartiennent, d'où j'apprends que même dans ces endroits-là, je n'ai pas le droit d'avoir du chametz. Minaïn, d'où je l'apprends, le verset nous dit, bechol gevulecha, dans toutes tes frontières, c'est-à-dire, dans toutes tes possessions, tu n'as pas le droit d'avoir du chametz, du pain levé. Et donc, en fait, du premier verset qui nous dit, Shivat yamim, seor lo imatse bevatechem. Durant 7 jours, on ne trouvera pas de levain dans vos maisons. Alors, nous apprenons de là qu'on n'a pas le droit de cacher du chametz et qu'on n'a pas le droit de recevoir du chametz d'un goy à garder, d'un non-juif à garder, même si c'est un non-juif qui vit avec nous dans la cour. Et du second verset qui nous dit, Lo yira'el lecha seor, velo yira'el lecha chametz bechol gevulecha, et on ne verra pas à toi du levain, et on ne verra pas à toi du pain levé dans toutes tes possessions. Alors de là, nous apprenons que ton chametz à toi, tu n'as pas le droit de voir, mais le chametz des autres, ou le chametz du ciel, du Dieu, on a oui le droit de voir, et que l'interdit n'est pas seulement dans nos demeures, mais dans toutes nos possessions. Et c'est ce que l'agma nous dit. Et je ne fais que dire. Bebatim, dans nos maisons, over mishum bal yirae, ou bal yimatse, ou bal yatmin, ou bal yikabel pikdonot, minanochi. Il y a l'interdit de ne pas voir, de ne pas trouver du chametz, de ne pas en cacher, et de ne pas recevoir du chametz à garder d'un non-juif. Bagvoulin, dans les possessions, c'est-à-dire à l'extérieur des maisons, à l'extérieur des maisons, dans le reste des possessions. Alors c'est le second verset, et du second verset nous apprenons, Shelchai ataroe, aval ataroe shel achrim. Tu as le droit de voir, tu n'as pas le droit d'avoir le tien, mais tu as le droit de voir celui des autres. Veshel gavoa, ou celui de Dieu, c'est-à-dire celui du chametz qui a été sanctifié. Alors maintenant, la Gemara demande, Minay liten et amour shel ze, beze, veshel ze, beze. D'où apprenons-nous que l'on peut dire les interdits de ce verset, on peut les mettre dans le premier verset, et les interdits du premier verset, on peut les mettre dans le second verset. C'est-à-dire, comment apprenons-nous que l'on peut mélanger les interdits les uns dans les autres, et tout ce qui est interdit, c'est interdit et à la maison, et dans toute possession, et ce qui est permis, c'est interdit et à la maison, et dans toutes nos possessions. Alors, le verset nous dit, il est dit dans le verset, c'est or, deux fois le mot c'est or, le mot levain. Et l'exera shava, donc nous apprenons par gezera shava. Nehemar, c'est or babatim, il est dit le mot levain à propos de la maison. Et c'est or lo imatse bevatechem, on ne trouvera pas de levain dans vos maisons. Venehemar, c'est or bekvulin, et il utilisait le mot levain à propos de nos possessions. Comme il est dit, lo iraël echas c'est or, et on ne te verra pas à toi du levain, mais chol gevulechad dans toutes tes possessions. Donc nous apprenons de là, ma c'est or amur babatim, de même qu'à propos du levain qui est dit dans les maisons. Alors, au vers Mishum Balirae, on transgresse l'interdit de ne pas le voir, ou Balimate, de ne pas en trouver, ou Baliatmin, et de ne pas le cacher, ou Balikabel Pikdonot, Minanori, on n'a pas le droit de recevoir des objets à garder Chamet dans nos juifs, Av Seor Amo Bagvolim, de même à propos du Seor, du levain qui se trouve dans toutes nos autres possessions, alors on transgresse cet interdit, au vers Mishum Balirae, de ne pas le voir, ou Balimate, de ne pas en trouver, ou Baliatmin, et de ne pas en cacher, et de ne pas en recevoir du chametz à garder des non-juifs, c'est-à-dire même dans toutes nos possessions. Ou ma seor amour bakvulin, et de même qu'à propos du seor, du vin qui est dit dans toutes nos possessions. Alors de là, nous avons appris que, que seulement le tien, tu n'as pas le droit de voir, mais tu as le droit de voir celui des autres, veshel gavoa, et celui qui est du chametz qui a été sanctifié. Alors de même, le seor, le levain qui est dans les maisons, alors on a aussi cette règle, shelchai ataroué, tu le tiens, tu n'as pas le droit de voir, aval ataroué shelachem et shelgavoa, mais tu as le droit de voir celui des autres, et du chametz qui a été sanctifié, c'est-à-dire qui appartient au ciel. Et donc si en fait quelqu'un a chez lui à la maison, pendant Pessah, un bout de pain, qui est egdesh, qui a été sanctifié, il ne transgresse pas l'interdit, car ce pain ne lui appartient pas. Alors maintenant, la Gemara revient sur cette étude. Amarma, le maître nous a dit, au début de l'étude, Enli la benochi shelo kibashto. Il est dit que l'on n'a pas le droit de recevoir des objets à garder d'un non-juif si cet objet est chametz. Et je n'apprends cet interdit que à propos d'un non-juif que l'on n'a pas conquis, ve'en sharu yimcha bachatzer, ne se trouve pas avec toi dans la cour. Nochi shekibashto ve'sharu yimcha bachatzer minayim. Un non-juif que l'on a conquis et qui se trouve avec toi dans la cour. Alors d'où je l'apprends? Talmud Amar, le verset nous dit, Lohimatse, tu ne trouveras pas de toute façon. Alors Gemara demande, Klapelaya, quel sens ça à cette question? Si un non-juif que l'on n'a pas conquis et qui se trouve pas avec nous dans notre cour, qui ne vit pas avec nous, et donc en fait qui est éloigné de nous, malgré cela, on n'a pas le droit de posséder et de garder son chametz, alors en plus forte raison, un non-juif que l'on a oui conquis, qui oui vit avec nous, et donc apparemment on a un plus de possession sur son chametz, c'est à plus forte raison qu'on n'a pas le droit de posséder ce chametz. Alors pourquoi la Gemara nous pose la question d'où je sais qu'on n'a pas le droit de le posséder? Alors Amar Abaye nous dit, il faut inverser la question. C'est-à-dire qu'on a appris du verset d'un non-juif que l'on a conquis et qui vit avec nous dans la cour. Alors un non-juif pareil, on apprend du verset que l'on n'a pas le droit de garder son chametz, et la Gemara pose la question, d'où je sais, même s'il ne vit pas avec nous dans notre cour, que l'on n'a pas le droit de garder son chametz. C'est-à-dire, Abaye inverse la question. Rava Amar, Rava nous dit, Léolam Lotipour. Toujours il faut dire qu'en fait, on n'inverse pas la question. Et donc en fait, il n'est pas d'accord avec Abaye. Et cette question, à Reisha Akae, elle se rapporte sur le début de la Braïta, sur le début de l'enseignement. Pourquoi? Nous avons dit au début, Shelchai Ataroué, Aval Ataroué Shelacherim. Ton Chametz à toi, tu n'as pas le droit de boire, mais tu as le droit de voir celui des autres, Shel Gavoa et celui du ciel. Elila Benochi Shelokivashto. Alors, Gma nous dit, je n'ai cet enseignement que à propos d'un non-juif que l'on n'a pas conquis, Ben Charouim Chabachetzer, qui ne vit pas avec toi dans ta cour. Alors, c'est peut-être que seulement dans un cas pareil, je n'ai pas le droit de, j'ai le droit de voir son Chametz. Mais un non-juif que l'on a conquis et qui vit avec nous dans la cour, d'où je sais que même son Chametz à lui, j'ai le droit de le voir. Talmud Lomar, le verset nous dit, l'oïmate, on ne trouvera pas. Agma demande, pose une question immédiatement. Va'etana, miaderaite, Sotana cherche une permission de voir du Chametz qui ne nous appartient pas. Venasib la krale isore, et nous amène un verset qui nous parle d'un interdit, de ne pas trouver du Chametz. Alors comment pouvons-nous amener d'un verset qui nous parle d'un interdit une permission? Alors il me répond, Mishum Sheneemar, Lecha Lecha Trezimne, car il est dit deux fois le mot à toi. Et donc, il y en a un en trop, et de ce mot en trop, alors nous apprenons que la première fois à toi, ça vient nous parler d'un non-juif que l'on n'a pas conquis, et la deuxième fois à toi vient nous parler d'un non-juif que l'on a oui conquis. Amar Mar, la Gemara continue et revient sur la Braïta. Le maître a dit, Yachol yatmin veikapel pikdonot min anochim. J'aurais pu penser que l'on a le droit de cacher le chametz ou recevoir des objets à garder chametz d'un non-juif. Talmud Lomar, le verset nous dit, loimatse, on ne trouvera pas de chametz du tout. Alors, Gma demande à Amadresha, pourtant tu as dit au début de la Braïta, Shelchai ataroé, aval ataroé shelchari, le tien tu n'as pas le droit de voir, mais tu as le droit de voir celui des autres, Veshel Gavoa et celui du ciel. Donc, quel interdit y a-t-il de posséder, de garder du chametz à un non-juif, étant donné que ce n'est pas le sien, il n'est pas en sa possession. Alors, Gma répond, Lokashia, ce n'est pas une question. Ad kabila le acharyut. Ici, nous parlons d'un cas où il a pris sur lui la responsabilité de le garder. Et ici, nous parlons d'un cas où il n'a pas pris sur lui la responsabilité de le garder. Et donc, s'il a pris la responsabilité de le garder, et que ce chametz se perd, se brûle, soit volé, ou quoi que ce soit d'autre, alors il devra le payer au non-juif. Et donc, dans un cas pareil, alors c'est considéré que le chametz lui appartient à lui. C'est lui le propriétaire de ce chametz, et donc il n'a pas le droit de le posséder. Mais, si nous parlons ici d'un chametz qu'il garde à un non-juif, mais qu'il sans aucune responsabilité, c'est-à-dire il lui a dit, tu peux le mettre là, mais moi j'ai aucune responsabilité envers ce bout de chametz, s'il est volé, s'il se perd ou quoi que ce soit, moi je ne te paye rien du tout. Alors, dans un cas pareil, il n'y a pas d'interdit, car ce n'est pas le sien. Et la Gemara rapporte une histoire, qui a d'Amar le Rava, comme ce qu'a dit Rava, l'Ibn Marcusa, aux gens qui vivaient à Marcusa, Be'iru chamira de bnei chala mi bataychum, éliminez le chametz, le pain levé des soldats de vos maisons, car il y avait une habitude que le roi envoyait des soldats pour garder la ville, et les gens de la ville, c'est eux qui devaient nourrir les soldats. Donc s'il y avait du pain levé qu'on gardait pour les soldats pour leur donner, alors on devait éliminer ce pain levé pendant Pessah. Pourquoi? Kevan deilum migna veilum midvir. Car s'il avait été volé ou s'il avait été cassé, c'est-à-dire s'il avait été perdu d'une façon ou d'une autre, alors Birshutai Chukae, il est considéré comme étant dans votre possession, ou Baitu Lishlume, et vous aurez dû donc lui payer un nouveau, vous aurez dû payer au soldat un nouveau pain, Kedil Khondame, alors il est considéré comme étant à vous complètement, et Vassour, et donc vous n'avez pas le droit de le garder, et donc il faut l'éliminer. Alors la Gemara demande, je peux comprendre ce raisonnement d'après celui qui dit qu'une chose qui entraîne une perte d'argent, c'est considéré comme de l'argent en lui-même. Et donc, étant donné que si on a une responsabilité sur ce chametz, sur ce levain, et donc on doit le payer s'il se passe quoi que ce soit sur ce levain, alors c'est considéré comme étant comme s'il était le propriétaire de ce levain, car il a une responsabilité, cette responsabilité lui donne lui fait acquérir une partie de ce levain. Mais elle les manda amar lavke mamondame, mais celui qui a dit que quelque chose qui entraîne une perte d'argent n'est pas considéré comme étant de l'argent lui-même. Alors donc en fait le fait d'avoir de la responsabilité sur ce levain, c'est vrai que ça peut lui entraîner une perte d'argent si ce levain est perdu d'une façon ou d'une autre, mais ce n'est pas considéré, ça ne lui acquiert pas encore une partie de ce levain. Alors maïkale, mais qu'avons-nous à dire? Pourquoi disons-nous que ce chametz est en sa possession? La Gemara répond, Shaneacha, ici c'est différent, de Amar Loimatse, car la Torah dit, on ne trouvera pas. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement posséder, mais c'est le fait qu'il se trouve en sa possession du Hametz. Et le fait qu'il a une responsabilité sur ce levain, bien qu'il ne l'a pas acquis, donc il n'est pas à lui, mais étant donné qu'il a une responsabilité, c'est à lui appeler qu'il est en sa possession un petit peu. Et donc, pour cela, ça rentre dans l'interdit.
Que l'on n'a pas le droit de trouver chez lui du levain, et c'est pour cela qu'il faut l'éliminer.
Nous avons fini ici le chiot de Dafé.
Nous commençons, Bezrat Hashem, le chiot de Davav.
Nous sommes Daf Hey Amud Bet, dernière ligne. Nous avons vu dans le chiot précédent qu'il y a un interdit qui nous dit Loïmatse, on ne trouvera pas de Hametz chez toi. Et cet interdit vient nous apprendre que l'on n'a pas le droit de garder du Hametz, même le Hametz d'un non-juif. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de garder le Hametz d'un non-juif pour ce non-juif pendant Pessah. Et cet interdit n'est valable que si on a pris la responsabilité sur ce Hametz. Mais si on n'a pas pris de responsabilité sur ce Hametz, on a, oui, le droit de le garder. Dans le chiot précédent, nous avons vu que la Gemara a posé une question sur cet interdit et la Gemara a répondu. Maintenant, la Gemara veut poser une autre question. Ikadamre, il y en a qui disent que la question qu'on pose sur cet interdit est d'une autre façon.
Je peux comprendre d'après celui qui dit que quelque chose qui entraîne une perte d'argent n'est pas considéré comme étant une perte d'argent, mais seulement qui entraîne une perte d'argent.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.